mais bien chers frères. Vous avez entendu la parabole, si belle parabole, de notre Seigneur au sujet des livrets et des bons grains. C'est une parabole qui est pleine de l'enseignement pour nous et qui d'autre part est très en rapport avec les exercices de Saint Ignace. Et la première vérité qui nous rapporte cette parabole, c'est l'opposition fondamentale et irréductible qu'il y a entre l'Esprit et notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit du monde. Opposition radicale. Cela nous est signifié par le sort, le destin, délivré du bon grain de blé. L'ivré sera ramassé et jeté au feu. Il s'agit bien de la damnation. Le bon grain, il sera recueilli et gardé dans les greniers, c'est-à-dire au ciel, à la patrie céleste. Vous vous rappelez aussi le mot de saint Augustin. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, a fait la cité de Satan. Et l'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi, a fait la cité de Dieu. Voilà bien cette opposition qui est comme une loi de l'histoire et une loi aussi de notre vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas refuser le combat. Bien sûr, c'est pas agréable, c'est là. C'est une conséquence du péché. Mais c'est comme ça. Il y a donc une opposition, il y a une lutte, un combat entre les biens et les mal. Et Saint Ignace, dans la méditation de deux étendards, il caractérise chacun de ses esprits. Il dit l'esprit du monde, c'est l'esprit d'attachement à l'argent. C'est-à-dire au bien de ce monde, du pouvoir et de s'ordonner, aux richesses, ce matérialisme. Et par l'attachement à l'argent, on arrive aussi à aimer les faux honneurs, les vanités de la vie, les faux honneurs. Et ensuite à l'orgueil. Et par l'orgueil, dit-il, on arrive ensuite à tous les péchés, à toutes sortes de péchés. Et voilà bien ce que nous voyons aujourd'hui, cet esprit matérialiste, l'humanité, d'orgueil, et de tous les péchés. Et au contraire, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un esprit de pauvreté. Et bien sûr spirituel, c'est-à-dire le détachement. Et nous pouvons même dire une certaine simplicité et austérité dans notre façon de vivre. Esprit d'humilité, esprit de modestie. Et par là, on arrive à pratiquer toutes les vertus. Il ne faut pas donc songer à des maris. Notre Seigneur lui-même nous dit que nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il alliera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse. Or, c'est un très danger, c'est le danger le plus grand, car c'est très subtil. C'est en douceur que l'esprit du monde peut pénétrer. En espagnol, on dit que l'amour par le froid dans la neige, on l'appelle la douce mort. Je ne sais pas si le français aussi, la douce mort. Parce qu'en effet, d'abord on est insensible, ensuite on s'endort, et puis on meurt. C'est très tôt, on meurt. Bien, cet esprit du monde risque de nous provoquer cette douce mort dans l'âme. C'est tout en douceur que cet esprit nous pénètre, qui nous gagne, qui nous rend insensible. Qui nous endort et puis on tombe dans le péché. Donc la première vérité de la parole d'aujourd'hui nous rappelle qu'il faut avoir vraiment la détestation et l'horreur du péché, de l'esprit du monde. Avons-nous cette détestation vraiment? C'est là qu'il se prouve, à vrai dire, l'amour pour la vérité et pour la vertu, dans cette détestation. Détestation et horreur du péché, de l'esprit du monde. Parce qu'il y a aussi la deuxième vérité qui nous apprend cette parole d'aujourd'hui, qui est enseignée plus directement. Elle est concernée directement. C'est que dans cette vie, les deux champs sont mélangés. Il y a bien une opposition, il y a bien un combat, mais les champs sont mélangés. Et c'est là par la volonté divine. C'est le Seigneur qui dit aux serviteurs, attendez qu'il arrive le temps de la moisson pour faire la séparation. Or, ce mélange se trouve aussi bien au-dedans des loups que dans la société. C'est saint Augustin qui disait à l'Église, « Parmi tes enfants, tu as beaucoup d'ennemis. Parmi tes ennemis, tu as beaucoup d'enfants. » Donc, une chose, c'est l'appartenance au corps de l'Église, une autre chose, c'est l'appartenance à l'âme de l'Église. Il y a beaucoup qui appartiennent au corps et qui n'appartiennent pas à l'âme, et vice-versa. Je ne parle pas seulement de modernistes, mais parmi nous. On peut appartenir au corps de l'Église par la foi, par la pratique extérieure. Et puis si on n'a pas l'état de grâce, on n'appartient pas à l'âme de l'Église. Donc vous voyez, ces choses sont mélangées. Et c'est pourquoi même saint Augustin nous donne une règle d'or. Il dit qu'il faut haïr les péchés, l'erreur, mais il faut aimer celui qui pêche, celui qui se trompe, celui qui tombe dans l'erreur. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de la tolérance qu'il nous est prêché aujourd'hui partout, pas seulement à l'Église, cette tolérance des péchés, de tous les erreurs. Ça, c'est une contrefaçon de la vertu, de la vertu de charité. Contrefaçon. Il y a en effet une grande différence entre pardonner le pécheur et pardonner l'erreur, ou l'état de péché voulu, proclamé comme principe. C'est pourquoi il faut toujours se souvenir de deux principes. Il y a cette lutte-là. Il faut bien lutter, il faut combattre. Il faut se battre, il faut se défendre. Il là, il n'y a pas d'intolérance. Bien sûr, il y a la prudence, il y a d'autres vertus qui dirigent ces combats, n'est-ce pas? Mais il faut bien combattre. C'est précisément l'esprit du monde qui est cet esprit de tolérer tout. Donc on tolère toutes les fois. Toute religion est bonne. On tolère. On tolère le péché, soi-disant, par charité, parce que c'est le respect d'autrui. Bien, tout ça, c'est faux. C'est faux. Et c'est l'épître d'aujourd'hui qui nous donne la vraie solution. L'apôtre Saint Paul dit aux Colossiens, vous qui participez à la nature divine, vous qui vivez de la grâce, revêtez des sentiments d'humilité et part du cœur et de modestie, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est l'humilité manifestée à l'extérieur dans nos rapports avec les autres. Revêtez des sentiments de miséricorde, et c'est le cœur. Et soyez bon. Exercez par rapport aux autres la bonté. Et ensuite, dans les adversités, dans les difficultés, soyez patient. Et d'abord pour soi-même, pour se maintenir dans la pratique de la justice, même dans les adversités, ça c'est la patience. Mais ensuite, la patience par rapport aux autres. Supportez-vous les uns aux autres. Et pardonnez-vous les uns aux autres, comme notre Seigneur vous a pardonné. Et surtout, dit l'apôtre, pratiquer les vertus les plus parfaites, c'est-à-dire la charité et la sagesse. La charité qui a deux actes, la paix et qui a comme effet, c'est un effet plutôt de la charité, la joie. Donc une charité qui se manifeste par rapport aux autres, dans la pratique de la paix, et de la gratitude, de la reconnaissance, et qui a comme fleur la joie. Et ensuite, pratiquer la sagesse, dit Saint Paul, qui est le don du Saint-Esprit le plus élevé. Sagesse qui trouve sa source à notre Seigneur Jésus-Christ et qui s'exerce dans l'instruction des autres, dans la dévotion et en faisant tout pour la gloire de Dieu. Et je pense que cette description qui fait l'apôtre Saint Paul vous rappelle comme à moi, à notre cher Monseigneur Marcel Lefebvre. C'est presque un portrait de Monseigneur Lefebvre. Miséricorde, bonté, humilité, modestie, patience. On ne se preuve patience par rapport aux autres. Et surtout, charité, sagesse. Sagesse qui glissait à notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui l'exerçait précisément dans l'instruction, dans la dévotion, dans la pratique de la dévotion. A fait ça tout pour la gloire de Dieu. Il y a vraiment un portrait de Monseigneur Lefebvre. Il était pour nous vraiment un exemple, pas seulement de la pratique de ses vertus, mais aussi du combat, de la force dans le combat. Il est donc un exemple de chrétiens. Chrétiens qui doivent aujourd'hui s'ébattre avec toute la force, mais aussi avoir fait la charité. Demandons donc à ce jour à la Très Sainte Vierge Marie de nous accorder la grâce de vivre dans le monde, mais sans appartenir au monde. De détester vraiment le péché, erreur, tout en aimant notre prochain, de pratiquer donc vraiment la force et la foi, en pratiquant aussi la charité et la miséricorde.
Pater omnipotens.
Et cette inimitié augmente. va durer jusqu'à la fin des temps, mais en plus, elle augmente. Or, nous ne sommes pas loin de ces points culminants dans cette bataille, dans cette lutte. Sœur Lucie de Fatima, elle soutenait que nous sommes dans les derniers temps. Bien sûr, il ne faut pas confondre les derniers temps avec la fin du temps, des temps. Personne ne connaît la date où le monde finira. Mais il est sûr que nous sommes déjà dans les temps précédents qui précèdent. Donc les derniers temps. Et c'est là, dit-elle, sœur Lucie, ce n'est pas que la Sainte Vierge le lui ait dit clairement, mais elle lui a fait entendre ça. Parce que d'abord, elle a parlé d'une bataille finale. Donc une bataille finale, c'est une bataille définitive. Où l'on sait où se trouve la victoire ou la défaite. Donc on n'est plus que jamais devant ces choix. Et aussi parce que notre Sainte Vierge Marie lui a dit que la dévotion à son cœur immaculé, le rosaire, était le dernier moyen de salut. Or, si ce sont des derniers, ça veut dire qu'il n'y en aura plus d'autres. Et comme les derniers remèdes concernent Notre-Dame, elle donne une troisième raison qui prouve qu'on est dans les derniers temps, c'est qu'il y aurait un péché contre le Saint-Esprit à refuser les derniers moyens de salut que le bon Dieu nous donne. Et puis elle se plaint que personne ne fait cas du message. Père, elle parle au Père Fuentes. La très sainte Vierge est bien triste, car personne ne fait cas de son message, ni les bons, ni les mauvais. Pas seulement les mauvais, ni les bons. Les bons continuent leur chemin, donc un chemin bon, mais sans faire cas du message. Les mauvais, ne voyant pas tomber sur eux actuellement le châtiment de Dieu, continuent leur vie de péché sans se soucier du message. Mais croyez-moi, Père, Dieu va châtier le monde et ce sera d'une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. C'était dans l'année 1957 que disait ça. Cette introduction, c'est pour vous dire, vous montrer que le message de Fatima est quelque chose d'essentiel à notre combat. Il ne s'agit pas de quelque chose d'accidentel, accessoire, facultatif, mais vraiment essentiel, nécessaire. C'est l'ultime secours qui est donné au monde. Il faut donc bien essayer de pénétrer en profondeur sur le message de Fatima. On a dit que Fatima, c'est la plus extraordinaire révélation du cœur immaculé de Marie. C'est-à-dire de sa charité. Son amour dans l'exercice de sa double maternité par rapport à notre Seigneur, sa maternité naturelle, et par rapport à nous, sa maternité spirituelle. Donc c'est la révélation du cœur de Marie. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Marie? Il y en a deux amours. L'amour de notre Seigneur qui est son fils et l'amour de nous tous qui sont ses enfants. Donc c'est la révélation de ce qu'il y a dans le cœur de notre mère. C'est le souci maternel de la Sainte Vierge Marie par rapport à la gloire de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, et au salut des hommes. En fait, c'est là le message de Fatima. Pourquoi est-elle apparue, la Sainte Vierge Marie? Parce qu'il y a le péché qui empêche la gloire de Dieu et qui attire le risque d'aller en enfer pour nous et même des châtiments matériels. Et Notre-Dame nous révèle à Fatima pas seulement ses soucis, donc le but du message, la fin du message, mais nous révèle aussi les moyens pour parvenir à ces redressements qu'il faut faire dans le monde. Je crois que nous sommes assez étonnés de la simplicité des moyens. Là, on voit vraiment la miséricorde de Dieu. Ce ne sont pas des moyens extraordinaires ou difficiles. Ce sont des moyens très simples. Je pense qu'on peut les résumer en trois. D'abord, la prière accompagnée des sacrifices. Et tout spécialement, le rosaire. Ensuite, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et finalement, la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Voilà les trois grands moyens de salut. Dans la quatrième apparition, la très sainte Vierge Marie, avec une profonde tristesse au visage, exhortait les enfants à la prière et au sacrifice par ces paroles. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont à l'enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie ou prie pour elles. Il y a vraiment là, comme disait le pape Pie XII, un mystère redoutable. Redoutable. Comment, par nos prières et nos sacrifices, nous pouvons vraiment collaborer au salut des âmes. Et aussi, dans le sens contraire, par le manque des prières et des sacrifices, nous pouvons avoir des responsabilités dans la condamnation des autres, dans la damnation d'autres. Et ça, c'est, vous voyez, c'est très théologique, c'est fondé sur la vérité, le don du corps mystique et la communion des saints. Nous faisons tous partie d'un même corps. Et cela fait que les membres, tous les membres peuvent bénéficier des mérites qui sont obtenus par les autres membres. Nous faisons vraiment un trou avec tous les catholiques fidèles de tout le monde. Or, vos prières, vos sacrifices peuvent actuellement obtenir la conversion d'un pécheur, par exemple, ou le salut d'une personne. Et parmi les prières que la Sainte Vierge Marie a demandées, elle en a demandé plusieurs. Elle a même révélé quelques prières. Et elle a demandé surtout le chapelet, le rosaire. Dans toutes les apparitions, elle a demandé de prier le rosaire. Et elle a rattaché même la paix dans le monde au fait qu'on prie les rosaires. Vous vous rappelez peut-être la parole de Sœur Lucie qui disait qu'il n'y a pas de problème personnelle, familiale, sociale, nationale, d'ordre naturel ou surnaturel, matériel, il n'y a pas de problème qui ne puisse pas être résolu par la prière du rosaire. Vous rappelez bien sûr le bienfait du rosaire à l'épante, quand on dit ce qu'il y a de tenue turque, des rangs de bataille, le chapelet a été le moyen de salut. Bien aujourd'hui, Dieu lui-même a voulu attacher une valeur spéciale à cette prière. Et il nous a révélé qu'il attache cette valeur particulière. Alors, est-ce que nous disons tous le rosaire? Est-ce que nous disons tous notre chapelet? Saint Louis, Marie Grignon de Montfort parlait d'un secret du rosaire. Car, bien sûr, tu lui-même rattaches une valeur particulière au rosaire, mais il y a aussi un secret au sujet de la récitation du chapelet qui fait vraiment du rosaire un moyen puissant de sanctification personnelle, d'union à Dieu, et c'est la méditation. La méditation. Si on médite le rosaire, vraiment on est imprégné de l'esprit chrétien. Et par ces moyens, par cette méditation, on arrive à être transformé vraiment à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui fait la méditation. Saint Alphonse Marie de Ligorine disait que la méditation, c'est la seule chose qui est incompatible avec le péché mortel. Ou bien on laisse le péché mortel, ou bien on laisse la méditation. On peut même dire le rosaire, s'il n'est pas médité, on peut dire le bréviaire, dire la messe, et être un état de péché mortel. Cependant, il dit on ne peut pas méditer et rester un péché mortel. Ou bien on laisse le péché ou on laisse la méditation. Alors faites de votre chapelet une vraie méditation. D'ailleurs, l'abbé Schellenberger, il a lancé une croisade du rosaire pour demander donc la paix pour le monde, la restauration du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, avec les prières, Notre-Dame a demandé des sacrifices. Tout d'abord, d'offrir les sacrifices qui sont nécessaires pour remplir notre devoir d'État et pour garder les commandements. Car aujourd'hui, il faut faire vraiment beaucoup de sacrifices pour cela. Et on peut toujours offrir ça pour les saints du pécheur. Même si c'est, on dirait, un sacrifice qui est exigé. Notre Seigneur disait à Sœur Lucie qu'il exigeait ces sacrifices-là, le sacrifice nécessaire pour garder les commandements et notre devoir d'État. Mais cela ne nous empêche pas de l'offrir pour les pécheurs, pour le salut des âmes. Donc avec ce but précis. Et puis nous pourrons toujours faire des mortifications, des pénitences. Des non-sens, sens extérieur, sens intérieur, puissance de notre âme, notre intelligence, notre volonté, des petits sacrifices qui ne sont pas vus, comme faisait s'intéresser l'enfant de Jésus, ou bien comme les enfants de Fatima, qui ont tout de suite vraiment à faire mener une vie des sacrifices. Bien sûr, il faut toujours de la modération, c'est là, n'est-ce pas? Ils avaient mis une corde sur les reins, alors ils ne pouvaient pas dormir, Et l'apparition suivante, c'est Notre-Dame des dits de porter la corde ce vin pendant la journée. Donc bien sûr, il faut de la modération, mais avoir de la modération suppose qu'on a la vertu, la mortification, sinon, qu'est-ce qu'on modère, n'est-ce pas? Donc il faut bien avoir, il ne faut pas se priver. Parfois, on a trop crainte de nous-mêmes, de nous faire du mal. Surtout aujourd'hui, croyons que nous allons mourir tout de suite, pour avoir des sacrifices, un effort. Et pourtant, cela peut sauver des âmes, vous comprenez? C'est un mystère. Donc, ayons d'abord une grande dévotion au rosaire et vraiment un esprit de prière et de sacrifice pour le salut des âmes. Le deuxième moyen qui a révélé Notre-Dame à Fatima, c'est la dévotion à son cœur immaculé. Dans la deuxième apparition, Notre-Dame explique aux enfants que Lucie doit rester dans le monde. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur veut établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. C'est donc bien un dessein de Dieu, de notre Seigneur. Il veut établir cette dévotion dans le monde. Et au cours des apparitions, elle révèle aux enfants les actes qui font partie de cette dévotion et qui sont la vénération, la réparation et la consécration. Immaculée de Marie. Et d'abord la vénération qui est l'acte premier et essentiel de tout culte. Et dans cette dévotion, l'objet de cette vénération, de ce culte, est finalement la personne de la Sainte Vierge Marie, toujours, n'est-ce pas, toute dévotion à Notre-Dame, l'objet, on appelle l'objet médian, n'est-ce pas, l'objet final de notre dévotion, c'est bien la personne de Notre-Dame, n'est-ce pas. Mais l'objet immédiat, c'est le cœur physique de la Sainte Vierge Marie dans la mesure où il est le symbole de l'amour et de la charité qui anime son cœur. C'est-à-dire, on vénère ce qu'il y a de plus élevé, plus parfait dans l'âme de Notre-Dame, c'est-à-dire la charité. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la charité surnaturelle, la vertu de charité, est la vie de l'âme, ainsi comme l'âme, c'est la vie du corps. Et la vie du corps. Et c'est pourquoi cette dévotion est la dévotion la plus parfaite à Notre-Dame. Car toute autre dévotion aurait pour objet une vertu, un privilège de Notre-Dame, une advocation. Or, toutes les vertus, tous les privilèges de l'âme de Marie était ordonné à sa charité, subordonné à sa charité. C'est pourquoi celui qui a de la vénération pour le cœur immaculé de Marie vénère ce qu'il y a de plus noble dans son âme. Et par là même, on voit qu'il ne s'agit pas d'une dévotion secondaire, mais bien essentielle. Et on comprend pourquoi Dieu veut établir cette dévotion à la fin des temps, la dernière temps. Ensuite, il y a la réparation. On pourrait dire que c'est presque naturel. Ça découle naturellement de l'amour et la gratitude. Découle nécessairement le désir de réparer les souffrances qu'on fait à la personne aimée. Donc cette réparation, c'est faire des actes d'amour, des prières, des sacrifices, en réparation pour les offenses commises contre notre Seigneur, contre notre âme, contre son cœur immaculé. Et finalement, il y a la consécration. Il avait dit à Sœur Lucie, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Et c'est donc bien dans l'esprit de ce qui a demandé Notre-Dame comme moyen même la consécration personnelle. Elle n'a pas demandé la consécration d'une façon personnelle, d'une façon claire, n'est-ce pas? Et c'est là, c'est sûr. Car cette consécration, c'est la seule réponse profonde, généreuse, à l'auteur du don qu'on reçoit. C'est vraiment le don du cœur de Marie, c'est le don de son amour, l'amour du cœur de Marie. C'est le culte le plus élevé qu'on puisse offrir, le plus parfait, le plus élevé. Et c'est un moyen aussi pour établir le règne de notre Seigneur. Le règne du cœur de Marie va précéder nécessairement le règne du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette dévotion aussi au cœur de Marie, à cette consécration, se rattache aussi la paix du monde. C'est clair par la demande de la consécration de la Russie. Et puis il y a une promesse exceptionnelle pour tous ceux qui embrassent cette dévotion au cœur immaculé, cette consécration. Elle-même a dit à Sœur Lucie, à qui embrassera cette dévotion, je promets les saluts, ces saints seront chéris de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Je promets les saluts à celui qui embrassera cette dévotion. Ces saints seront chéris. L'original dit pas chéri, il dit plutôt bien-aimé. Bien-aimé, c'est beaucoup plus que chéri. Hein. C'est un amour de prédilection, de choix. Le troisième moyen, c'est la communion réparatrice. Et vous savez, cette communion réparatrice a été demandée par la Sainte Vierge Marie, non pas à Fatima, mais à Pontevedra, quelques années après. Ça faisait partie du troisième secret, c'est là que Notre-Dame avait suggéré déjà cette dévotion, mais elle a dit, bon, je viendrai à nouveau pour demander la communion réparatrice des premières samedis du mois. Ici le texte. Vois ma fille, mon cœur entouré d'épines. C'est déjà le texte, mais je le relis. Voir en pressant l'esprit. Vois ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leur ingratitude. Toi du moins, tâche de me consoler et dis. Que tous ceux qui pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et me tiendront en compagnie pendant 15 minutes, en méditant sur les 15 mystères du rosaire, à l'esprit des réparations, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Voilà une promesse extraordinaire, semblable aux 9 premiers vendredis du mois du Sacré-Cœur. Et c'est un aspect parfois négligé du message de Fatima. Et je le trouve très important, car c'est profondément catholique. Notre-Dame rattache le salut à l'Eucharistie, à la communion, donc au sacrifice de la messe, et donc aux sacrements qui s'ordonnent tous à l'Eucharistie, au sacrifice de la messe. Et puis, ça nous fait voir que nous sommes des privilégiés. Car nous sommes les seuls à voir la prémesse. Je parle plus de catholique fidèle, n'est-ce pas, de traditionnaliste. Nous sommes les seuls donc à voir le vrai esprit eucharistique. On ne peut pas avoir la vraie piété par rapport à l'Eucharistie et avec la nouvelle messe. C'est impossible. Ça se perd. Donc nous sommes vraiment des privilégiés de pouvoir faire ces communions de première assemblée. Et il y a un rapport aussi très étroit entre l'Eucharistie et Notre-Dame. À tel point qu'on pourrait dire que l'Eucharistie, c'est un don du cœur de Marie. Sans l'incarnation, il n'y aurait pas eu l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie, c'est la continuation de la présence de notre Seigneur parmi nous, donc de l'incarnation. Or, il n'y aurait pas eu d'incarnation sans la maternité de Marie. La maternité divine de Notre-Dame. Et la maternité de Notre-Dame dépendait du consentement de son cœur, de son accord. Donc l'Eucharistie, c'est bien un don qui est contenu dans ces consentements qui a fait la Sainte Vierge Marie. Et ensuite, toute grâce passe par Marie. Et la trésorière distributrice de toutes les grâces. Or, l'Eucharistie, c'est le don le plus précieux que Dieu nous donne. Donc, c'est bien un don qui passe par les mains de Marie. Puis, elle était aussi très, très unie à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui nous a donné la victime, le prêtre. Et qui a offert aussi le sacrifice. Elle nous a mérité aussi le salut, la rédemption. Ce sont les papes même qui disent cela, n'est-ce pas? Par exemple, le pape Saint-Pie-X. Il a donné aussi le corps et le sang à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il lui a donné les moyens de devenir pour nous la nourriture, l'aliment spirituel. Elle nous prépare pour recevoir la communion. Elle nous aide à tirer des fruits. Vous voyez pourquoi on dit c'est la théologie du message de Fatima? Parce que c'est très théologique. Ce sont des moyens très simples. On pourrait dire que c'est vraiment le minimum, c'est l'extrême de la miséricorde de Dieu. Mais en même temps, ce sont des moyens très, très attachés à la foi catholique. Et c'est pourquoi les saints parlaient avec ferveur de la dévotion, la communion reçue en union avec Marie. S'habituer à recevoir la communion avec notre Sainte Vierge Marie. les liens si étroits qu'il a avec l'Eucharistie et le sacrifice de la messe. Et ici, je pense qu'on peut se demander, est-ce qu'on peut offrir pour les autres? Car sinon, on pourrait dire, bon, je le fais une fois, puis je m'assure le salut, voilà. C'est très bien. Et tout d'abord, il faut répondre que le but principal de cette dévotion du premier samedi du mois, c'est la réparation. C'est la consolation. C'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. C'est une façon de nourrir notre piété. Et puis, d'autre part, je pense que il n'est pas dit si on peut l'appliquer pour d'autres ou non. Je pense que de toute façon, on peut l'offrir avec ce but pour les saluts des autres. D'autres personnes offrir, par exemple, les cinq premières samedis à moi pour une personne en particulier. Je pense qu'on peut le faire. Il n'est pas infallible comme pour soi. Et on voit très bien que c'est que Notre-Dame a demandé ça à l'esprit de réparation. Quand notre Seigneur révèle à Sœur Lucie pourquoi il a demandé cinq samedis. Elle dit, ma fille, le motif en est simple. Il y a cinq espèces d'offenses et des blasphèmes proférés contre le cœur immaculé de Marie. Les blasphèmes contre l'Immaculée Conception. Les blasphèmes contre sa virginité. Les blasphèmes contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris, ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Et cinquièmement, les offenses de ceux qui l'outragent directement dans ses saintes images. Voilà pourquoi notre Seigneur a demandé cet exercice. C'est pour réparer, pour consoler. Voilà donc les trois moyens si simples sur lesquels je voulais simplement attirer votre attention afin que vous méditiez, que vous pouvez réfléchir sur cela. Pratiquer et aussi de faire connaître ces moyens. Et je crois que, pour terminer, on pourrait résumer le message de Fatima d'une façon pratique, concrète. C'est dans la vie de trois enfants, de trois petits-enfants. Tu leur as donné une mission spéciale à chacun d'eux. Et dans cette mission spéciale qui a chacun, nous retrouvons tout le message de Fatima dans toute son ampleur. Et ainsi nous voyons que Jacinthe, elle était toujours préoccupée pour les saluts des âmes. Elle avait été surtout impressionnée pour la vision de l'enfer. Elle faisait tout pour sauver des âmes. Elle était intéressée, c'est-à-dire sauver des âmes. Elle priait, elle faisait des sacrifices, elle acceptait une mort héroïque. C'est vraiment une sainte. Ensuite, François, lui, il était plutôt incliné à réparer, à consoler. Dès qu'il avait une âme plus réflexive, plus Il avait été surtout frappé par la tristesse du visage de Notre-Dame, la tristesse qu'il avait vue en Dieu. Alors il faisait tout, enfin il réparait, il était consolé. Et finalement, Sœur Lucie, eh bien, il a été laissé dans le monde afin de faire connaître la dévotion au cœur immaculé de Marie, afin donc d'établir cette dévotion dans le monde. Voilà donc la mission de ces trois petits enfants. Tout un programme pour notre vie, pour surtout notre dévotion au cœur immaculé de Marie.
Thank you.